Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Radio Foot International sur RFI bien sûr. Et en cette fin d'après-midi, nous commencerons par cette question. La CAN, un tournoi majeur ou mineur? La polémique venue d'Angleterre fait réagir alors que le pharaon Mo Salah plane sur la Premier League et que la distinction d'un joueur africain pour décrocher un ballon d'or commence à dater sérieusement. C'était en 1995, c'était le grand George Weah du Liberia. Un trio qui maintient le suspense en Liga avec le Barça toujours devant, le Real et l'Atlético qui suivent le rythme. Un club est proche de ce podium cependant et nous allons en parler, l'Athletic Bilbao des frères Williams. L'équipe du Pays Basque tente de rester dans le sillage des trois grands d'Espagne. Un quadruplé pour Serro Guirassy, l'international guinéen de Dortmund se place parmi les meilleurs buteurs de Bundesliga. Et sur la scène européenne, les Lillois vont devoir se méfier. Un but pour faire taire les sifflets. Neymar a inscrit un corner rentrant. Et son club de Santos recommence à gagner. Heureux comme un poisson dans l'eau, parce que là-bas, Santos, c'est le pêche et le poisson. Invité dans ce studio, Marc Libra, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Vous avez vu, hein, on a un programme très spécial aujourd'hui.
Mais c'est bien quand
hein
on ne parle pas de président, d'horreur totale, de corruption, de machin, c'est bien, je suis ravi.
Exactement.
Parlons de football, s'il vous plaît.
Oui, et notamment football africain, grâce à nos amis. Bonjour Franck Simon.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Et puis Patrick Juillard qui est là aussi.
Bonjour,
bonjour Patrick.
Annie, bonjour à toutes et à tous.
Pierre Guérin m'a aidé à préparer cette émission avec David Finzel et Laurent Salerno est à la réalisation. Notre trio de choc dans derrière la vitre, comme on dit. Radio Foot, c'est parti. A-t-il voulu faire le buzz ou a-t-il mal exprimé sa pensée? En tout cas, l'ancien des Reds, devenu consultant sur la chaîne Sky Sport en Angleterre, Jimmy Carragher, s'est fait beaucoup d'ennemis ces dernières heures en osant critiquer la Coupe d'Afrique des Nations qui, selon lui, n'est pas un tournoi majeur. Jamie Carragher évoquait dans ce contexte Mo Salah et ses chances de trophée suprême, de ballon d'or, bien sûr. Lui qui plane sur le championnat d'Angleterre. Écoutons-le, Jamie Carragher.
Je pense que le problème vient du fait qu'il joue avec l'Égypte et qu'il n'a probablement pas participé à un tournoi majeur ou qu'il n'a peut-être pas une grande chance de le gagner. Et pour moi, c'est soit la Ligue des Champions, soit un tournoi de première importance. En temps normal, c'est le joueur qui se distingue dans ce type de compétition. C'est comme Vinicius Junior ou Mbappé en ce moment avec le Real Madrid.
Bon, alors il a peut-être pas toutes les stats que Rémi nous aurait exposées dans la tête, mais il a quand même disputé deux finales de CAN, donc il était quand même pas loin de la victoire dans cette compétition. Il s'est attiré les foudres et l'on va revenir aux réactions et aux critiques. Mais Franck Simon, est-ce que selon vous, il s'est trompé ou il est dans la provocation?
Dans la provocation, certainement pas, mais bon, il est en revanche dans la continuité d'un discours qu'on entend depuis malheureusement trop de décennies du côté de la Grande-Bretagne, et en particulier du football anglais et des anciens. C'est déplorable, sans doute qu'il a. Ouais, non, pour moi, il s'est bien trompé. Hein, il a bien mis les mains dans le caca, là, et je pense que, bah voilà, il démontre aussi une totale inculture pour moi. Par rapport à ce que représente le football africain et en particulier la reine des compétitions qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'est pas le seul, hein, parce que si on devait faire une liste de tous ceux qui ont raconté des conneries ces derniers temps...
Moi, je me souviens d'un certain Klopp quand même, hein, quand il fallait laisser partir Salah à la CAN. Il n'était pas franchement content et il ne considérait pas la CAN comme un tournoi.
Je pense que avec Pat, ça fait des décennies qu'on entend ce discours de la part de clubs qui sont bien contents d'aller s'alimenter au vivier inépuisable du football africain. Non, mais c'est vraiment ça. Ça fait des années. C'était le cas à la fin des années 90 où on entendait des horreurs absolues, début des années 2000. Et là, Jamie Carragher connaît absolument pas, ni Mo Salah, le Mo Salah africain que tout le monde connaît. Quand il dit qu'il a participé à des compétitions, il oublie quand même que Mo Salah, même avec un bras en moins quasiment, il avait fait une Coupe du Monde. Mmh. C'était raté en Russie, mais enfin, exactement, il était là quand même. Et puis, et puis les Coupes d'Afrique des Nations, vous avez rappelé son parcours, même si la dernière, en l'occurrence, en Côte d'Ivoire, il ne l'a pas terminé, puisque, comme l'Égypte, puisqu'il était blessé, il a dû rentrer.
Ça fait un peu très anglais, parce que souvent les Anglais, un peu gardiens du temple du football.
Non, là, oui, ça peut faire ça, mais je pense que dans le cas de Carragher, je pense qu'il ne sait même pas à quelle date se dispute la CAN, puisque
ça change
pour l'argument de dire oui, Salah ne joue pas de tournoi majeur, donc il aura du mal à gagner le Ballon d'Or. Problème, la CAN va jouer à cheval en décembre et janvier, après
la remise du Ballon
le
d'or.
Vote du collège et la remise du Ballon d'Or. Donc ça n'a aucun sens.
Et puis cette année, il n'y a pas d'Euro, il n'y a pas d'autres compétitions continentales.
Il y a le Mondial des clubs. Non, il n'y a rien.
Mais là, il est au bar, en fait. Il est au pub.
Oui,
Jamie
voilà.
Carragher,
donc ça veut dire que là, il raconte n'importe quoi. C'est des propos à l'emporte-pièce. Et il sait bien qu'il va dans le sens aussi des supporters qui sont mécontents de voir partir leurs joueurs africains à la CAN une fois tous les deux ans. Et là, il les flatte, il les prend dans le sens du poil en leur disant « Regardez, ils quittent leur club pour un tournoi qui n'est même pas un tournoi majeur. » Donc, je trouve ça assez démago et lamentable de sa part, même si ça reste un grand joueur de l'histoire de Liverpool, mais là, il ne se grandit pas. Hein,
oui, bon, alors c'est souvent, on a l'habitude de ces petites phrases polémiques régulièrement, on va dire. Anthony Bafo, l'ancien capitaine du Ghana, ex-secrétaire général de la CAF.
Et ancien défenseur de l'OGC Nice.
Alors ça, c'est encore plus important. Il a critiqué, sur les réseaux sociaux, le manque de respect à la CAN et à Salah, en rappelant, en plus, que l'Égypte en a gagné 7 de ses CAN, hein, donc elle gagne des trophées. Mais c'était avant Mo Salah. Elle rappelle aussi qu'à la dernière CAN, l'importance qu'a eu cette dernière CAN en Côte d'Ivoire et la prochaine en préparation dans un pays qui s'appelle le Maroc. On sait qu'il fera les choses en grand. Le Maroc, on sait qu'il veut accueillir et qu'il va accueillir la Coupe du Monde de 2030. Est-ce que c'est ça aussi peut-être qui surprend Marc ? C'est-à-dire que non seulement parce qu'on en parle sur RFI, mais nous qui connaissons bien cette compétition, on voit qu'elle prend de l'importance dans le monde du football et on a l'impression que Carragher, il n'a pas mesuré ça.
Alors, je ne vais pas le défendre. Par contre, je vais essayer d'expliquer ce qu'il a voulu dire. Nous, on avait ce réel problème quand un joueur africain partait à la CAN. L'entraîneur, il ne savait plus comment faire. Donc de 90 à 2005, c'était un réel problème. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a toujours ce problème. La plupart des clubs, on parlait de Klopp, ils sont pas contents quand leurs joueurs. Donc en fait, quand il dit
dispute en hiver, effectivement.
Voilà, quand il dit que malheureusement, on ne peut pas prendre en compte cette CAN. C'est difficile parce que pour moi, oui, il se rend pas compte de l'événement, mais en fait, la CAN, pour moi, elle a jamais été mise en valeur à sa juste valeur avec le nombre de joueurs qu'il peut y avoir. Et aujourd'hui, quand il parle, je parle de Haaland aussi. Haaland, tout le monde sait que s'il veut jouer en Ballon d'Or, c'est pas avec sa nation, son pays qu'il fera quelque chose. Donc je pense qu'il veut aller dans ce sens-là. Et après, oui, il veut se faire briller au niveau des supporters parce que c'est vrai qu'ils vont faire la gueule s'il s'en va, mais il est pas concerné cette année. Mais, voilà, je peux entendre parce que nous, on en parle beaucoup ici et c'est normal, mais il y a beaucoup de clubs aujourd'hui et beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas. Rappelez-vous, à une époque, on n'avait même pas les droits, on ne pouvait même pas voir la CAN à une époque.
Il fallait l'écouter sur RFI.
Mais si on voulait voir certains matchs, il fallait dans certains bars. Moi, à Marseille, à l'époque, j'avais des copains d'origine marocaine on allait chez eux parce qu'eux avaient la chaîne. Autrement, tu ne pouvais pas, sur la chaîne française, tu ne pouvais pas. Alors maintenant, ça va mieux. On est d'accord aujourd'hui. Mais
dans les années 80, d'accord. Mais depuis le début des années 90, les principaux matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, on arrivait à les voir. C'était une Coupe d'Afrique des Nations. Oui, mais Marc, tu avais 8 pays à l'époque. Hein. C'était pas comme maintenant. Hein.
J'ai une question parce qu'on a repris les récompenses du Ballon d'Or de ces dernières années. On n'est pas remonté jusqu'à 1995 avec ce dernier joueur africain récompensé.
Premier et dernier.
Bah oui, pour l'instant, Georges Weah. Mais si on regarde Rodri, qu'il a eu pour 2024. Ouais. Voilà, pour 2024. C'était grâce à l'Euro 2024, finalement.
Oui, c'était un tout, mais c'était en partie grâce à l'Euro.
Alors, l'ensemble de sa carrière, peut-être, mais en tout cas, c'était ça qui était frappant. Lionel Messi, quand il l'a deux fois, en 2023 en tout cas, Non, 2023, c'est grâce à la Coupe du Monde 2022. Karim Benzema, là, lui, grâce à la Ligue des Champions et grâce au Real en 2022, hein, peut-être un peu la Ligue des Nations. Et puis Lionel Messi, effectivement, va l'avoir en 2021. Et quand on se dit, mais pourtant, il était au PSG, ça ne marchait pas super bien et tout, on nous dit, bah, c'est grâce à la Copa América. Tout d'un coup, on voit émerger cette compétition continentale alibi de son titre. Donc finalement, on se dit, pourquoi pas la CAN, non ? Est-ce que ce n'est pas l'heure venue aussi ? Il a été deux fois meilleur joueur du continent africain, CAF Award, non, mais en 2017 et 2018.
Pour moi, il n'y a pas de débat, en fait. C'est-à-dire CAN ou pas CAN, ce que fait Mohamed Salah depuis le début de la saison, dans la régularité, dans l'excellence, dans l'impact sur les résultats de son
équipe.
Égyptien
ou pas ?
Là, il vient de battre, d'égaler un record de Lionel Messi. Il a été 11 fois buteur et passeur dans le même match d'un championnat majeur européen sur une seule saison. Et il va sans doute battre le record de Messi, puisque Messi l'avait fait sur une saison complète. Là, on a joué que les deux tiers de la saison de Première Ligue. Même pas les deux tiers. Donc, c'est exceptionnel. Donc, le débat sur la CAN, pour moi, il est annexe. C'est-à-dire que Salah est aujourd'hui le joueur le mieux placé pour, à la fois pour le soulier d'or européen du meilleur buteur. Il devance Harry Kane et je ne sais plus quel un deuxième joueur. Et... pour le Ballon d'Or.
Bien sûr.
La CAN, c'est une cerise sur le gâteau. Mais pour moi, ce n'est pas le centre du problème. La chance en plus qu'a Salah cette année, c'est qu'il est désormais le seul vrai fer de lance offensif de son équipe. Et donc, il n'aura pas d'autres nominés. Il n'y aura pas d'autres joueurs de Liverpool.
Il n'y aura pas Mané, ni Firmino.
Dilue les votes comme ça a été
Il y aura peut-être Luis Diaz, mais je ne pense pas qu'il ait beaucoup de votes. Voilà, donc il est incontestable.
Rio Ferdinand, autre grand joueur de la Première Ligue, a lui déclaré, à la suite de ça, parce que je vous ai dit, ça suscite beaucoup de réactions, la CAN a besoin de plus de respect, demandé à Salah, à Drogba, Yaya Touré, Abedi Pelé, à Eto, ce que ça signifie. Eh bien, on va l'entendre, Yaya Touré, qui lui aussi a réagi, mais c'était surtout pour parler en bien et en très bien de Mo Salah.
For me, you have to give him to
et pour moi, Mo Salah est le meilleur, je n'ai aucun doute là-dessus. Ses statistiques parlent pour lui, et on doit lui attribuer le Ballon d'Or, ça fait longtemps qu'il le mérite. Je ne veux pas manquer de respect aux autres candidats. On met en avant la régularité, mais j'ai déjà vu des joueurs surestimés être récompensés dès leur première saison, parce qu'ils le méritaient, soi-disant. Mais ce joueur est régulier depuis des années avec Liverpool, et il y a encore des gens qui pensent différemment. Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Demandez aux anciens joueurs, ils savent ce que Salah apporte au football.
Alors, on sait ce qu'il apporte, le pharaon, au football, Franck. Son palmarès est important. Ces finales de CAN, qu'on le veuille ou non, perdu ou gagné, de toute façon, il y a des finales de CAN. Il y a ces deux titres de meilleur joueur africain. Il est le deuxième meilleur buteur de son équipe nationale, qui est l'équipe d'Égypte.
Derrière son sélectionneur.
Oui, effectivement. Et donc, finalement, on a l'impression aussi, on en parle régulièrement, là, ce qu'il a fait dans le match du week-end contre Manchester City, c'était quand même extraordinaire. Et on se dit peut-être que son heure est venue, justement.
On le souhaitait déjà pour Sadio Mané. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, malheureusement, pour Sadio en 2022. Mais effectivement, et puis il n'y a pas que ça. Vous avez évoqué son palmarès, mais il y a la personne, l'être qu'il est. Alors après, bon, sur le terrain, des fois... voilà, on se souvient aussi avec Sadio Mané. Il y a des fois, il l'a oublié, alors que Sadio ne l'oubliait pas sur le terrain. Bref, mais en tant qu'homme, en tant que personnalité, ce qu'il représente dans le football africain, mais pas seulement, dans le football international, dans le football arabe, c'est quelque chose d'incroyable. Et moi, ce qui me choque dans les propos de Jamie Carragher, c'est à la fois son manque de connaissance, en fait, de l'homme, Mo Salah. Finalement, il parle du joueur... du buteur, mais il en sait pas plus. Puis d'oublier mais qu'il est le représentant d'un grand pays, d'une grande nation.
Exactement.
De football.
Énorme.
Et
énorme.
Ça, c'est... Les Anglais, tu sais que les Anglais, ce sont les plus forts. Non, oui.
Mais mais c'est ça, ils se sont toujours sentis les gardiens du temple, c'est-à-dire nous, on sait tout sur le foot.
J'ai vécu en Angleterre, joué en Angleterre, les autres championnats, on les regarde presque pas et ça n'a aucun intérêt. Ils n'ont pas de soucis, un joueur français arrive, si ce n'est pas une big star, les mecs, ils n'en ont rien à faire. Donc, c'est comme ça pour eux. Après, la chose que moi, je trouve très étrange, c'est qu'en septembre dernier, on était ensemble, et je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit, pour cette année, ça sera ou Harry Kane ou Mo Salah. qui sera là. Et l'autre marque toujours, Harry Kane marque toujours autant de buts. Et Mo Salah est sur sa lancée, il ne s'arrête pas.
30 buts hein, depuis le début de la saison.
Pourquoi aujourd'hui il y a autant de gens qui montent ton credo en disant c'est lui qui va l'avoir? Rappelez-vous la saison passée, on avait dit pour moi c'était Vinicius.
Bon, lui portons la pas veille. La poisse quand
non,
même.
Non, hein. mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir des joueurs qui disent ah ben non, parce qu'en plus, le système des votes, ça peut encore changer, on comprend plus rien. Donc, pour l'instant, Mo Salah fait partie pour moi des trois joueurs qui sont capables d'avoir le ballon d'or. Laissons-le tranquille.
Oui, on est en début d'année.
Non, mais on est en début d'année et on ne sait pas ce qui va se passer. On ne lui souhaite pas. Il y a un petit souci qui arrive, on fait quoi? Parce que tout le monde dit ah non, mais c'est lui. Hein. Mais c'est lui. Mais laissez-le jouer. Oui, de toute façon, il vole actuellement.
Patrick, en plus, on se dit, parce que finalement, cette attaque qu'on a eue pendant un moment, les belles heures de Klopp avec Mané qu'on citait et avec Firmino, bon, pratiquement toute l'équipe n'est plus là. Lui est encore là. Et en plus, il a réussi à résister, je dirais, aux sirènes d'Arabie Saoudite, parce que on sait qu'il a été courtisé
dragué,
et avec des millions et
des espèces sonnantes,
des centaines de millions
trébuchantes. Ce qui me frappe aussi, c'est ce que disait Bruno Constant dans votre émission hier, c'est qu'il a aussi fait évoluer sa manière de jouer en fonction de son âge et de ses qualités physiologiques qui peuvent un peu évoluer. Et il court plus utile. Il court un peu moins, mais de manière toujours aussi judicieuse.
Ouais, efficace. Hein.
Et voilà, et avec une efficacité dans la finition qui est meilleure que jamais. Donc ça montre aussi l'exigence du joueur et son intelligence de s'adapter à l'évolution de son corps, un peu comme ce qu'avait fait en leur temps Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Donc ça, pour moi, c'est le signe d'un très très grand attaquant.
C'est une intelligence.
Voilà,
une
l'intelligence au-delà de celle de jeu, mais l'intelligence de comprendre son évolution. Ouais. Donc c'est aussi pour ça qu'il le mérite. Je vous ai dit qu'il était en tête du soulier d'or devant deux autres joueurs. Le deuxième, c'est Harry Kane, et à ex-aequo avec Retegui, que j'ai oublié, mais lui, à mon avis, n'a aucune chance d'avoir le ballon d'or. Mais en revanche, ça va être la Ligue des Champions qui va être le juge. Parce que imaginons que Liverpool soit éliminé au prochain tour par une certaine équipe dont on parle souvent ici, et que le Bayern Munich et Harry Kane gagnent la Ligue des Champions.
Et puis d'autres, peut-être, pourquoi pas.
Il y a Rafinha, il y a Yamal. Maintenant, deux joueurs du Barça nommés, ça va un peu disperser les voix.
C'est toujours Vinicius, vous oubliez Vinicius.
Vinicius, et c'est peut-être aussi le moment de Harry Kane. Harry Kane, cette saison, 22 matchs, 22 buts.
C'est en ce moment, Pat, tu as raison, c'est en ce moment que ça se joue.
C'est sur les deux, trois prochains mois.
Parce que désormais, le Ballon d'Or est décerné en octobre.
Ouais, mais les votes, ils auront lieu en août,
septembre. Donc le Ballon d'Or se joue au cœur de la saison, alors que quand il était décerné fin décembre, il pouvait jouer jusqu'à novembre.
Je pense que ce championnat du monde des clubs, ils vont pas prendre ça aussi en compte.
Sans blague, je sais pas. Mais
non, parce que c'est une mascarade. Donc
je suis en vacances.
Forcément. Ça pèse quoi? Ça pèse quoi au regard actuellement cette compétition?
Ah, mais entre ça et une CAN, je préfère une CAN. Tu vois, on parlait de la CAN, je préfère encore la CAN que ça.
Vous refermez le sujet de très belle manière, Marc, parce qu'effectivement,
je vous remercie. J'ai bien fait.
Pour nous ici, en tout cas, c'est un tournoi majeur, la CAN, et je crois que vous l'aurez tous, vous êtes tous d'accord.
C'est le plus beau tournoi continental, disons-le clairement.
C'est la Coupe du Monde de l'Afrique.
Voilà. De l'Afrique, voilà. Un Madrilène qui fut ballon d'or et que l'âge n'empêche pas de marquer. Il a 39 ans, désormais un certain Luka Modric.
Corner, David Lopez, 5 minutes encore dans cette première période. Est-ce qu'il va la tenter? Oui, Modric! Luka Modric pour libérer le Real Madrid et mettre l'un des plus beaux buts de la saison.
De quelle planète viniste Peter Pan Luka Modric?
Devant Luka Modric, extraordinaire ce numéro 10. Oh quel but! Voilà frappe. Golazo de Modric.
Et oui, golazo. Et la Liga entretient son suspense. Les trois grands clubs installés sur le podium ont tous gagné assez nettement et maintiennent la distance entre eux. Toujours ce petit point entre le Barça et Real et l'Atlético. Et pour différencier Barça et Real, eh bien, cette différence de but. Marc Libra, au vu de... Les trois ont gagné largement ce week-end. Est-ce que vous voyez un des trois, un indice d'un qui prendrait le large en vue du titre pour l'instant ou pas encore?
À l'heure actuelle, non. Le début de saison un petit peu compliqué du Real. Aujourd'hui, ils sont quand même premiers, ils sont devant.
Non, ils sont juste derrière le Barça.
Oui, mais en fait, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé en début de saison, l'arrivée de Kylian Mbappé qui a un petit peu modifié le game, qui a tout changé, c'est très difficile. Je pense que pour l'Atlético Madrid, ça va être très compliqué parce que, pour moi, ça va se jouer encore une fois et je pense que pour moi, le Real va avoir encore une longueur d'avance. C'est pas très beau ce qu'ils font. C'est pas très très bien le jeu qu'ils pratiquent. Par contre, ça gagne tout le temps, c'est efficace quoi. Puis Mbappé, j'ai envie de vous dire qu'il revient au meilleur des moments. C'est-à-dire qu'il redevient, il est affûté. Ce week-end, j'ai regardé le match, je me suis un peu ennuyé, mais bon, lorsqu'il fait un contrôle de la protéine à 22 mètres, il frappe. Voilà, 40 ans, respect. Il joue encore. Non, mais
39 et demi.
Ouais. Enfin, voilà, il est plus proche des 40 que. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est passionnant. C'est que ces trois équipes-là, elles vont se tirer jusqu'au bout et elles vont rien lâcher. Après, la Ligue des Champions va peut-être faire des dégâts. Et c'est là où aujourd'hui.
Parce que
on
les trois sont là, bien sûr.
Ben oui, c'est ça.
Donc il y en a deux qui vont se croiser.
Ben oui, automatiquement.
Ouais, donc il y en a un des deux.
En gros, il y a la meilleure attaque, le Barça, la meilleure défense, l'Atlético, et l'équipe qui a le plus grand savoir-faire et qui est la plus habituée à gagner
expérience.
Et à faire la décision, c'est le Real. Donc faites vos jeux. Moi, j'imagine quand même que si le Real passe en Ligue des Champions contre l'Atlético, ça va booster l'équipe. Et on sait que peut-être plus que le Barça, c'est une équipe qui est programmée pour être au meilleur en période mars-avril. Et donc ça pourrait l'aider
ils ont attaqué déjà, à faire
la décision en Liga.
Ils ont compris que le calendrier était un peu avancé, ils ont déjà
donc,
commencé.
D'accord. Je donnerais un léger avantage au Real.
Plateau, ils vont y arriver.
Maintenant, celle que je préfère regarder en tant que spectateur cette saison, c'est plus le Barça. Mais c'est pas ce qui compte.
L'Atlético, c'est quand même pas mal aussi, c'est costaud.
Non, ça je m'en passe.
Franck, et vous, un des trois?
Je rejoins Pat par rapport à effectivement, l'équipe qui est séduisante, et ça ne fait pas photo. Mais en même temps, voilà, ce Real Madrid d'une telle efficacité.
Avec tout ce qu'ils ont vécu encore cette année, les blessures, les problèmes, ils sont toujours là.
Hein. Ouais, et en revanche, le seul truc, c'est bien que vous me posiez la question, Annie, le seul truc que je voulais nuancer, et ça n'a rien à voir avec toi, Marco, hein, c'est le truc qu'on entend régulièrement là sur il revient. Il revient. Mais il est revenu, en fait, Mbappé. Il est déjà, en fait, ça fait déjà quelques mois, en fait, hein, que ces statistiques sont redevenues affolantes. C'est pas de maintenant.
Ça fait depuis mi-décembre.
Ouais, quoi. Et du coup, comme il tourne comme une Formule 1, c'est lui qui tire son équipe vers le haut. Et c'est pour ça que c'est effectivement, comme tu le disais aussi, Pat, elle est programmée, cette équipe, avec un Mbappé qui est à fond, enfin, peut-être pas encore. Peuvent aller très très loin. Donc,
oui,
moi,
et puis
plutôt,
y a des...
plutôt rien,
ce qui
est, là, quand même.
Ce qui s'est passé, c'est aussi qu'Ancelotti a trouvé des solutions. On avait quelques doutes à l'automne.
Mais ça tourne bien entre
patinait,
les 3-4
il a trouvé notamment Asensio derrière qui apporte
c'est clair,
de la grinta et du
le
renouveau
jeune Asensio.
Qui met de la concurrence. Sur d'autres postes, je trouve que ça fonctionne mieux entre les quatre de devant. Il avait du mal à trouver la bonne carburation. Là, ça fonctionne mieux.
Je pensais que t'allais parler en premier, tu vois, cette animation.
Et puis, Modric, qui était vraiment en début de saison en difficulté physiquement, là, je pense qu'il s'est entraîné pour être lui aussi plus prêt au printemps. Et quand il rentre, il est plus impactant. Là,
il joue parce qu'il n'y a pas Bellingham. Autrement, il ne joue pas. Il n'est pas titulaire si Bellingham est là.
Je trouve qu'il était moins impactant, même quand il faisait 10 ou 15 minutes, il y a 3-4 mois qu'aujourd'hui.
Là,
et donc, tout ça, c'est
il a retrouvé sa justesse.
C'est un peu des signaux faibles qui indiquent, à mon avis, que le Real va être de plus en plus redoutable.
Et Vinicius qui remarque, après plusieurs mois, sur une passe de Mbappé.
Il a dû digérer l'échec au Ballon d'Or aussi.
Oui, alors c'est absolument ça.
La page est tournée.
Et surtout de dire, est-ce que je laisse la place à Kylian ou pas? Et là, on voit que quoi qu'il arrive,
s'il jouait avec lui, il serait plus fort.
Les deux bossent ensemble et si les deux s'accordent, alors pour moi, le perdant, c'est Bellingham qui on retrouve moins bien, mais si les deux s'accordent, ils vont faire mal.
Et le meilleur, ça reste Rodrigo, mais bon, personne n'en parle.
Enfin, non, c'est pas le meilleur forcément, mais en tout cas, il est très efficace et notamment en Ligue des Champions.
Il rentre parfaitement dans
le
moule.
Ils sont tous,
oui, vraiment.
En tout cas, derrière, il y a une équipe qui se détache un peu parce qu'elle n'est pas complètement larguée par rapport au podium, et c'est ce qui nous a intéressé aujourd'hui, c'est l'Athletic Bilbao, le club du Pays Basque, auteur d'un carton ce week-end en Liga.
Le festival de Nico Williams. Nico Williams a calmé tout le monde et fait vibrer les stadios. San Mamés, quel rush! Nico Williams. Il est passé. Et la lucarne! Golasso encore de Nico Williams. Beaucoup trop loin du porteur. Ça va pas être possible. Face à des joueurs de ce calibre-là, Nico Williams est bel et bien de retour. Berchiche, ou ballon plein axe, il est bon ce ballon-là. Et c'est parfaitement suivi et parfaitement conclu, plein de sérénité et de sang-froid. Iñaki Williams, passeur et buteur donc dans ce match. Victoire 7-1 de l'Athletic Bilbao face à une très très faible équipe du Real Valladolid. Ils sont paumés.
Oui, ils sont paumés, ils sont même derniers du classement. Cette pauvre équipe qui avait déjà failli descendre l'année dernière, on ne va pas donner cher de sa peau cette saison. Par contre, ils sont très efficaces, ces frères Williams et cette équipe dans l'ensemble, dirigée par un certain Ernesto Valverde. Alors, on s'en souvient, hein, non seulement parce que c'est un peu un clone de Charles Denner, le comédien, mais c'est surtout parce que c'est l'ancien entraîneur du Barça. Il est ici, sur ce banc, depuis plusieurs années. Écoutons-le, Ernesto Valverde.
Ce qui est important, c'est d'essayer de ne pas redescendre au classement. C'est évidemment ce que souhaite Villarreal, qui veut nous rattraper, ou les clubs qui sont derrière nous, comme le Rayo Vallecano. Chacun de ces clubs a des objectifs qui lui sont propres et garde un œil sur ce que font les concurrents. Ce qui importe pour nous en ce moment, c'est que nous sommes quatrième et qu'il faut que nous restions concentrés sur les matchs à venir. Et des matchs, il en reste encore beaucoup. On verra bien où on en sera en fin de saison. Mais il faut que nous restions en bonne position au classement.
Patrick Juillard, cette quatrième place en fait au championnat espagnol, elle est très chère. Tout le monde la veut là. Tous les clubs la veulent parce que les trois autres pratiquement chaque année monopolisent le podium et ce qui veut dire Ligue des Champions. Donc cette quatrième place, il a raison Valverde quand il dit faut surtout pas reculer. On se dit non mais il est quatrième, mais c'est pour ça.
Oui, c'est un peu le championnat des non galactiques et ils sont en tête. Ouais. Devant Villarreal et tous les autres sont loin derrière. Il y a un vrai gap, un vrai fossé.
Déjà, oui.
C'est une équipe qui a misé sur de la stabilité et qui en recueille les fruits. Valverde, lui, on l'avait critiqué au Barça, ça n'avait pas vraiment fait la maille, comme on dit. Et c'est un peu comme Unai Emery, dans les très grands clubs, ça n'a pas fonctionné. Et là, dans un club un peu plus, entre guillemets, familial, avec des objectifs et une pression peut-être un peu moins forte, eh bien, il donne son meilleur.
Oui, et puis Valverde, on se souvient, c'était la fin de l'époque Messi.
C'était pas le bon moment.
Ouais,
c'était
voilà.
C'était en dépit de lui
et ce qu'il savait faire.
Il y a des choix qui sont payants. Il y a des joueurs qui se révèlent de manière un petit peu inattendue, notamment Iñaki Williams, qui s'est un peu mué en passeur. Mm-hmm. Son frère, lui,
on va y
a
venir
été
au frère
un... Voilà, donc mm-hmm. voilà. Donc,
dans l'ensemble. Marc, est-ce que c'est une équipe que, quand vous regardez la Liga, qui est intéressante à voir, cette équipe d'Athletic Bilbao? Parce que c'est une équipe qui est toujours présente. Bon, maintenant, elle ne joue plus qu'avec des joueurs basques, hein, ce qu'elle a fait pendant longtemps. On sait qu'elle est jouée à San Mamés pour les équipes adverses.
C'est très
important. Est-ce que c'est une équipe qui pour vous, compte dans ce championnat
Automatiquement, quand on voit les trois, qui sont les trois depuis presque 10-15 ans, qui sont importants, cette équipe basque fait partie...
Elle a souvent été européenne.
Par le passé, je suis parti commenter leurs matchs aussi. Ils ont toujours été très importants. Après, une identité de jeu, il y a quelque chose qui se passe. Et aujourd'hui, l'avantage d'avoir les deux phénomènes dont on va parler tout à l'heure, ça fait un plus. Après, c'est une équipe qui ne perd pas. Ils ont perdu seulement que 3 matchs. Ils font beaucoup de nuls, mais ils ne perdent pas. Et je crois que Golavera, ils sont à plus 22 aujourd'hui. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il faut qu'ils finissent maintenant quatrième parce qu'ils sont trop forts. Ils sont pas assez forts pour les trois devant, mais pour derrière, ils sont au-dessus. Et j'espère que cette euphorie qu'il y a autour de ces deux joueurs, parce qu'aujourd'hui, ça tourne qu'autour de ces deux joueurs-là, ben, ça continue et qu'on puisse les retrouver. Voilà.
Alors parlons-en de ces deux frères, hein. C'est les frères Williams donc. On se souvient de Nico Williams évidemment pendant l'Euro, hein, parce que son entente avec Yamal était très intéressante. Il a marqué ce doublé. Et puis Iñaki, son frère aîné, qui passe ses vives et un but. Deux frères qui jouent en plus dans deux sélections différentes. Franck, ça c'est pas une exception. On se souvient des frères Boateng notamment.
Exactement.
Il y en a un pour l'Espagne, hein, qui était donc champion d'Europe, et l'autre est avec le Ghana.
Ouais, pas forcément bien loti, hein, avec une équipe qui a perdu beaucoup
de sa superbe
ces dernières saisons. Mais...
Écoutons une des confidences d'un des frères, donc Williams, c'est pas les sœurs Williams du tennis, là c'est les frères Williams de Bilbao. Un documentaire sur Netflix où Nico se confiait sur son grand frère Iñaki.
On était dans la même école et on allait et venait toujours ensemble. Je me souviens qu'on faisait du VTT sur la roue arrière, on adorait ça. Il a un peu eu un rôle protecteur, de père avec moi, car très jeune, je n'ai pas eu la présence d'une figure paternelle. Parce que mon père travaillait en Angleterre et on le voyait peu. Et mon frère a dû faire beaucoup de choses pour moi. Et c'est grâce à lui que je suis devenu qui je suis.
Rappelons-le, Franck, Nico Williams, c'est 22 ans, Iñaki, 30 ans. Et sur le terrain, une certaine complémentarité, ça doit être très agréable à vivre aussi comme frère.
Bah, certainement, certainement. Bon, toutes les fratries ne sont pas... sont pas aussi belles,
ouais, même si on a eu les... c'est moins bien en ce moment.
Je voulais pas parler de tu vois,
mais ils sont pas sur le même terrain.
Là, en on a eu les Ayou aussi du côté du Ghana, puisque là on évoquait le Ghana. Mm-hmm. C'est vrai que cette complémentarité, en plus, il y a là aussi il y a un gap, là aussi il y a un fossé hein, sur le plan de l'âge. C'est quand même beaucoup, 8 années. Ah oui. Le fait qu'ils puissent jouer, évoluer ensemble, être comme vous le dites complémentaires.
Et l'autre qui l'a, il le dit, hein, il m'a chouchouté finalement, ouais, il m'a protégé, mon grand frère.
Ouais, c'est une figure paternelle. Il l'a bien expliqué. Et puis c'est un modèle certainement aussi. Et c'est des points de repère très forts pour les supporters. Forcément. Mm-hmm. D'avoir une fratrie comme ça, vous êtes supporter, vous focalisez sur ces garçons-là. Quoi.
Surtout qu'on se souvient qu'au sortir de l'Euro, on a bien cru que Nico Williams partirait lui aussi vers le Barça, parce qu'avec Lamine Yamal, il disait qu'ils s'entendaient bien et qu'ils avaient envie de continuer
bien,
à jouer
ça
ensemble.
Bien, ouais.
Ça arrivera peut-être d'ailleurs plus tard.
Il a dû digérer ce non-transfert d'ailleurs.
On l'a vu pendant l'Euro.
C'est une équipe qui sait aussi lancer des jeunes. Il y a l'hispano-marocain Sanadi en attaque. Mm-hmm. Il y a Sanset, le milieu offensif, qui a mis, je crois, 13 buts cette saison en Liga, qui est déjà courtisé par des grands clubs, dont Liverpool d'ailleurs.
Bravo Valverde,
ça bosse très bien dans ce cadre un peu plus apaisé. Mm-hmm. Et l'équipe est vraiment en pleine progression. Elle a trouvé sa bonne carburation.
Exactement.
Avec ce quatuor
offensif.
Et
on la voit à chaque fois être là. Marc, c'est ce buteur, Nico Williams, qu'est-ce que vous diriez? Vous parliez de petite merveille tout à l'heure.
Non, mais en fait, on en a. Chacun joue sur un côté.
Oui.
Donc, d'être frère, déjà, ils se connaissent parfaitement. Ils savent exactement comment jouer. En plus, ils sont pas maladroits. Ils ont des joueurs qui sont aussi des sacrés joueurs de football. Voilà, ça reste. Et on a vu déjà ce qui se passe avec l'équipe d'Espagne. Alors, avec le Ghana, je vous dis franchement, j'arrive pas forcément à suivre l'autre, le grand frère.
Je pense qu'il n'arrive pas à suivre.
Avec l'équipe d'Espagne, avec Ghana, on sait ce qui se passe aujourd'hui. Mais surtout, moi, je suis pas sûr qu'il ait digéré son départ ou pas. Parce que c'est vrai que l'histoire de cette famille qui arrive dans les années 90, qu'ils arrivent du Ghana, ils sont emprisonnés, ils doivent repartir, quelqu'un va les aider, quelqu'un va. Et c'est vrai que ils sont attachés aussi à ce club et c'est une identité forte.
Et pas qu'au club aussi, je pense. À la région.
Mais totalement. Totalement. Ouais. C'est pas que de dire non, mais parce qu'on a reçu, parce que c'est vrai qu'il y a eu cette histoire. Oui, il y a une offre fantastique parce qu'avec Yamal, c'est deux copains, on aimerait les faire jouer.
En fait, il est pas parti pour des histoires d'argent parce que le Barça n'a pas l'argent. Hein. C'était ça la vraie
raison. Mais il est surtout aussi peut-être pour son cœur, pour se dire je suis avec mon frère va pas continuer à jouer tant et tant, et peut-être que je veux me faire un kiff parce que là, ce qu'il vient de dire sur mon frère, c'est ma figure paternelle, c'est grâce à lui. Peut-être que. Et si aujourd'hui ils en sont là, c'est peut-être parce que les deux, ils aiment être ensemble et aiment jouer ensemble. Il n'y en a pas beaucoup de gamins qui sont capables de jouer ensemble.
Séparément, ils seraient moins bons chacun dans leur club
respectif. Mais peut-être, mais c'est ça que je veux te dire. C'est là, peut-être.
Il y a peut-être un fil invisible qui les relie.
Complètement.
Et les rend plus forts,
Et puis les voir jouer ensemble dans la même équipe, ça peut peut-être les pousser aussi, les motiver.
Chacun est sur un côté en plus.
Ils n'ont pas exactement le même style, ce qui est marrant sur le terrain.
Il y en a un qui est plus.
Il y en a un qui est plus un pur finisseur qui est Iñaki, même s'il peut très bien jouer sur un côté.
Et l'autre,
c'est plus un ailier qui
plus arabesque,
dribbleur. Il est plus brésilien dans ce style.
C'est toute l'intelligence justement de. On va encore citer son nom, du coach Valverde. Hein, très honnêtement, parce qu'il a dû sans doute trouver aussi les bons mots pour assembler tout ça. C'est un puzzle, une équipe.
Oui, et puis il a su faire de la place aux autres. C'est-à-dire, c'est pas uniquement les frangins, il y a les autres et ils se mettent bien en valeur mutuellement, tous ces joueurs-là. Donc
alors,
ça,
on espère
c'est
que
une vraie réussite.
Sur la scène européenne, peut-être encore de les voir vibrer.
Oui. Eh bien, on va continuer à les suivre avec l'Athletic Bilbao. Pour l'instant, une petite pause en musique, les amis. Pause fraîcheur avec Oriental Brothers International Band. Et le morceau s'appelle Munajivunwane. Oriental Brothers International Band sur la playlist de RFI. Nous, on part vers l'Allemagne.
Ça s'est bien fait, bien travaillé de la part de l'international algérien. Le centre à venir juste derrière. Pascal Gross pour une passe décisive et le 10e but de la saison pour Serhou Guirassy. Pascal Gross, Serhou Guirassy. Le doublé réalisé par l'attaquant guinéen cette fois-ci, Maxi Maya, et le triplé de Serhou Guirassy. Centre de Gross, et quatrième. Le quadruplé signé Serhou Guirassy pour le 5-0 du Borussia Dortmund. La fête est complète.
On n'arrête plus le Guinéen et à la bonne heure, Serhou Guirassy a inscrit un quadruplé lors du carton. Il y en a eu quand même en Europe dans ces championnats et là c'était le BVB contre l'Union de Berlin. Donc vous l'avez entendu, ce 6-0. Ils sont toujours loin au classement mais 10e pour l'instant, cette équipe de Dortmund. Alors d'abord en Bundesliga, est-ce que il revient et il s'illustre au bon moment, Serhou Guirassy, Marc Libra, parce que là il est en fait, on va enlever, il y a Harry Kane qui est le meilleur buteur de Bundesliga.
Et
derrière, il y a Marmouche, mais Marmouche est parti.
Exactement.
Donc bientôt, il va pouvoir le rattraper. Hein,
il n'y a pas Kitike après. Il y a Kitike aussi qui est là, non, il me semble.
Mais Kitike, il est derrière Guirassy.
Guirassy l'a dépassé.
Parce que maintenant,
il a 13 buts, c'est ça ?
Ouais, il a même doublé Moussiala.
Moussiala aussi devant, exact.
Et alors, c'est une équipe là, derrière le trio Bayern-Francfort, c'était la 23e journée, il y en a 34, donc il y a encore 11 journées pour essayer de faire remonter cette équipe. Mais d'abord, Guirassy, il a été blessé en début de saison, et là, est-ce qu'on a l'impression de voir le bon et vrai Guirassy qu'on voyait l'année dernière ?
C'est un des seuls joueurs qui aujourd'hui est capable de sortir un petit peu de Dortmund de cette passe. Ils sont complètement décrochés. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer ? C'est par rapport à l'Europe ou pas ? Et lui, c'est faire la différence. Après, ce qui est quand même hallucinant, c'est que depuis qu'il est passé par la France, il marque des buts tout le temps. Hein. On ne l'a jamais trop considéré, mais c'est un vrai buteur. Quoi. Mm-hmm. Il marque des buts. Hein. Il marque beaucoup de buts.
En France, il n'en avait jamais mis plus que 12 par saison. Hein.
Oui, mais en fait, tu voyais quand même quelque chose et qu'on n'a pas su encore une fois le garder. Parce que quand tu es capable de marquer la saison passée, il a mis plus de 27.
En club, 28.
28 buts,
saison,
voilà, je te remercie. Et là, on a été en 13 dans une saison compliquée, début de saison raté, le club, ça ne fonctionne pas.
Lui blessé,
ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas, nous, à garder ce genre de joueur et qu'il parte et que d'un coup, et heureusement qu'il a, parce que peut-être que Dortmund n'en serait pas là, encore
Patrick
une fois.
Julien.
Non, mais je lisais aujourd'hui une interview d'Anthony Cassi, le latéral français de Mayence, et il disait pourquoi les joueurs français réussissent mieux en Bundesliga. D'après lui, c'est parce qu'ils osent plus, joueurs français ou formés en France comme Guirassy. Et Guirassy en Bundesliga, il a fait exactement ça, c'est-à-dire que il s'est mis à davantage croire en lui. Il est arrivé dans un championnat plus offensif et moins calculateur que la Ligue 1, où il évoluait jusqu'alors. Et ça a matché. C'est pareil, c'est ce qui s'était passé avec un joueur comme Alassane Plea, qui à Nice était un peu coussi coussa et qui en Allemagne s'est révélé.
Kunku aussi.
Voilà.
Anthony
et donc,
Modeste, on se souvient.
Il y en a
aussi.
Beaucoup, hein.
Ouais, beaucoup. Et donc finalement, c'est pas pour rien. C'est aussi un joueur qui a atteint la maturité, qui a 28, 29 ans. Mmh. Donc c'est l'âge de la maturité. Et je trouve aussi qu'il a appris à faire ce que lui conseillait de faire Kaba Diawara, qui était son sélectionneur. En Guinée, c'est de devenir un peu plus égoïste. Mmh. Et ça aide à être un grand finisseur. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et on voit les buts qu'il a mis, les 4 buts. Il a toute une palette. Il y a 2 buts de la tête, mais il y a aussi un but de renard des surfaces et une reprise du gauche un petit peu inattendue, inventive, disons. Donc voilà, c'est un joueur complet.
Franck, Patrick dit... Il marque en Bundesliga et il a compris que c'était un championnat offensif et tout, mais n'oublions pas, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. en ce moment. Il est à 10 buts. Aussi.
C'est important de le rappeler. Il est,
devant Lewandowski.
Le dernier, c'était contre le Sporting, d'ailleurs, du Portugal.
Il avait aussi raté un penalty. Ça arrive.
Au meilleur. Et c'est moi ce que j'aime avec ce garçon, mais c'est un petit peu à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, ce que tu disais, pas sur Mo Salah, il a su élargir sa palette. Ouais. C'est pas nécessairement le même qu'on voit en équipe nationale, avec les longues courses, les frappes lointaines, ce genre de choses. Effectivement, le match d'hier est très caractéristique de ce que maintenant il est en capacité de faire. Et hier, on l'a vu dans un registre qui est aussi intéressant, le tout petit périmètre. Effectivement, la reprise là que tu disais, inventive du gauche, petit périmètre, les buts de
il
la tête.
Il a inventé un but, quoi. Ouais, on ne voyait pas ce qu'il allait faire. Et
exactement.
Voilà.
Et il est très très fort dans ce tout petit périmètre. Il sait bien se placer. Et puis, on sent aussi une entente très importante avec ses partenaires. Hein. Il les a rejoints.
Et puis, il a longtemps été sous-estimé parce qu'il a un peu une allure nonchalante.
Oui,
et en fait, être nonchalant n'empêche pas d'être
un brillant. De style,
ouais, c'est et c'est ce que disait Hunda, un de ses anciens coéquipiers à Stuttgart. Il disait, faire autant de bonnes choses dans la surface en donnant l'impression d'en faire si peu, c'est la force de Guirassy.
Et alors, bien que les Lillois soient observateurs et prévenus.
Il est passé par Lille, donc il sera revanchard.
En plus, ils retrouveront le LOS, ça sera la semaine prochaine. Ça sera le match de 8e de finale de Ligue des Champions.
Ça promet.
Sofiane Amazian est déjà devant sa
télé. Il tremble.
Il a noté Guirassy, attention, il a mis un panneau comme ça.
Allez, on continue et on termine par un autre buteur. On a pensé à vous, Marc Lebrun, on parle de buteur aujourd'hui.
Mas chama a galera, chama a responsabilidade, chegando no momento decisivo para o Santos. Tem Tiquinho na área, vem cruzamento, essa bola vem direto, Olímpico!
But de crack, nous dit ce commentateur. Alors, on le sent heureux comme un poisson dans l'eau. Parmi les peixes, puisque poisson, c'est le surnom de ce club du port de Santos, le FC Santos. Alors, le surdoué, le facétieux Neymar retrouve fort ses talents. Un Ney qui, dans son pays, devant son public, après avoir quitté l'Arabie Saoudite pour retrouver le club de ses débuts, on a l'impression qu'il retrouve de l'énergie, qu'il retrouve surtout du talent. Neymar qui a inscrit ce but, qu'il raconte lui-même.
J'allais tirer un corner et les supporters d'en face ont commencé à me chambrer. Je leur ai dit « Allez-y, chantez !» Et puis j'ai fait cette passe décisive. À mon deuxième corner, ils ont recommencé et je me suis dit « Bon, maintenant, c'est moi qui vais marquer, vous allez voir. » J'ai bien tiré, j'ai marqué un super but.
Et quand c'est qu'il passe mon premier goal.
Alors, un but et en plus deux passes décisives, puisque c'est trois buts sur corner.
C'est des stats à la Mo Salah.
Ouais.
Mais il a marqué pour l'instant deux fois. Il avait marqué un penalty il y a quelques journées.
Franck, incroyable ce but de corner en plus, aidé par le poteau et tout ça.
Il sait faire.
Ça, bon, le gardien aussi qui rate la
claquette. Mais il marque.
Il n'est pas génial. Mais bon, lui, il sait travailler aussi.
Équipes, c'est toujours lui qui tirait les corners.
Oui,
voilà.
Bien sûr. Puis les trois buts sont venus de trois corners.
Vous étiez heureux de le revoir, Neymar
Ça m'a un petit peu amusé. Enfin, le cadre, tout ça, les gamins avant le match. On voyait, il causait en fait avec le public. Il leur demandait de les soutenir.
C'était contre l'Inter de Limeil. Petit club.
Ce qui m'a intéressé, c'était de voir un peu comment il allait évoluer. Et j'avais l'impression d'avoir un diesel devant mes yeux, quoi. Il allait doucement. Puis à un moment donné, quand il a commencé à trouver sa petite et bonne carburation, on a retrouvé les fulgurances de Neymar, parce que ça se perd pas.
Après, c'est quand tu parles des fulgurances, ce sont des gestes techniques sur le terrain, ça tu le perds pas, mais après dans le déplacement, dans la vitesse, l'accélération, c'est plus compliqué.
Il y en a eu quand même.
Mais après, son pied reste son pied. Ce que j'aime autour de ça, c'est il rentre sur le terrain, tous les gamins, ils sont tous autour de lui.
C'est la joie.
En fait, il est en préparation pour la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire. Oh, le premier corner, il frappe. Mais même le mec qui a marqué, tout le monde, tous les joueurs, ils vont voir Neymar qui est en train de danser. C'est lunaire le truc. C'est-à-dire que, ok, la passe, mais le mec, il marque et tout le monde va voir Neymar.
Même les adversaires.
Non, mais c'est ça qui est joli. Mais pour moi, il est en préparation pour la future Coupe du Monde. Il faut le mettre dans les meilleures conditions.
Et il a l'air de revenir en étant.
Il faut qu'il retrouve la joie. Un petit peu d'embonpoint et qu'on le retrouve un peu affûté. Parce que pour moi, il est. Encore, mais ça va revenir s'il travaille sérieusement.
Mais on a l'impression qu'il retrouve la joie.
Mais il y a le carnaval, Karim, vous avez dit.
Oui, là, c'est à la fin de la semaine. Mais son anniversaire est déjà passé.
Pour moi, c'est déjà le fait de le revoir jouer, c'est un petit événement parce qu'en Arabie Saoudite, c'était carrément devenu un fantôme.
Il y a pratiquement le même décalage horaire en Est comme en Ouest, mais on le voit plus.
Là, en fait, c'est des galops d'essai ces matchs parce qu'il faut rappeler que ça n'est que. Oui. Le championnat régional local, de l'État de São Paulo. Oui. Donc, ce n'est pas le plus haut niveau brésilien.
Limeira est une petite équipe qui n'est pas du tout en première division.
C'est un niveau assez bas. Hein.
C'est une remise en, en jambes.
Voilà, c'est ça. On va voir ensuite, quand il jouera contre des gros
adversaires,
le vrai
championnat qui commence en mai.
Des gros clubs, avec des gros joueurs, entre guillemets. Là, on verra où il en est vraiment. C'est encourageant, en tout cas. Et puis, c'est sympa, au moins, effectivement, on revoit un sourire sur son visage. Alors que. C'était plutôt devenu synonyme de, je sais pas, de...
C'était l'Arlésienne, on ne le voyait pas jouer.
Surtout, on a l'impression qu'il est porté par ça et que ça le motive, ça décuple sa motivation.
Jouer une Coupe du Monde, ça ne peut que le motiver. Concernant le fait d'être chez lui. Oui, mais forcément, ce contexte local.
C'est pas pour rien.
Et puis, rapidement, j'ai ces statistiques match après match. Rapidement, on voit que l'entraîneur, là, Pedro Caixinha, il lui a donné rapidement du temps de jeu. Il a déjà joué deux fois plus.
Oui, c'est ça le problème. Tu ne peux pas t'en priver.
Ah ouais. Mais je veux dire, il a retrouvé du temps de jeu. Il est à 6 matchs, 2 buts, 2 passes D. Effectivement, ce n'est pas un gros championnat, hein, le Paulista.
Pour l'instant,
il est en train de monter en gamme.
Il est en préparation.
Il revit au football.
Oui, et puis on se demandait s'il était perdu pour le football, justement. Il était là, ça faisait pratiquement 2 ans qu'il ne jouait pas.
Son dernier but, c'était au PSG il y a 2 ans.
S'il ne participe pas à la Coupe du Monde, pour moi, ça sera... Là, il se fait un kiff, mais après, c'est perdu.
On aura certainement
Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar.
La der
pour eux, en tout cas.
Surtout pour les deux premiers. Après, Neymar, on ne sait jamais. Il peut peut-être durer plus s'il se relance bien.
Ouais. Là, ça sera peut-être compliqué. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été aujourd'hui dans Radio Foot International. Dina da Querido. On se retrouve demain dans Radio Foot International pour parler football. Merci.